Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 16. La traversée, qui avait commencé avec un vent des plus favorables, ne devait pas continuer dans les mêmes conditions, au grand désappointement du général. Lafayette avait hâte d'arriver en Amérique. Dans toutes les lettres que lui avait écrites Washington, le généralissime américain le pressait de revenir. Cette persistance de l'illustre homme de guerre à réclamer la collaboration du marquis était des plus flatteuses pour l'amour-propre du jeune et bouillant général. Il lui tardait d'annoncer de vive voix à Washington combien la cause qu'il défendait avait trouvé de sympathie en France. Aussi vit-il avec une mauvaise humeur croissante le calme plat se prolonger au point que les bâtiments semblaient être comme englués dans la mer. Chaque jour, il abordait M. de Virlay par cette question invariablement la même. « Qu'augurez-vous pour aujourd'hui, commandant ?» Et M. de Virlay répondait toujours sur le même ton bourru qu'il avait adopté depuis le commencement des calmes. « J'augure que je m'ennuie, et qu'il ne faudrait pas qu'une escadre anglaise nous arrivât en ce moment à portée de canon. » Puis il ajoutait en haussant les épaules. « Mais il n'y a pas de danger que j'ai semblable chance. » Il n'y a parbleu pas plus de vent pour eux que pour moi. Et ce n'est pas quand les grands voiles pendent le long des mâts comme des serviettes que l'on a mises à sécher qu'il y a lieu d'espérer rencontrer ces fripouilles d'anglais. Pour M. de Virlay, la durée de la traversée était chose tout à fait secondaire. Il lui importait peu que le général Lafayette fût pressé de mettre à terre son petit corps de volontaires. Washington lui était absolument indifférent et l'indépendance américaine le cadet de ses soucis. Ce qu'il espérait, sans s'en ouvrir aux militaires passagers, c'était qu'il aurait, en tenant la mer, la bonne fortune de pouvoir se canonner un jour ou l'autre avec quelque navire de Sa Majesté Georges. Par exemple, il ne cachait pas ses espérances et ses intentions, si l'occasion se présentait, quand il se trouvait avec des officiers de son bord, voire avec certains maîtres de timonerie, vieux marins, véritables types de loups de mer, que la haine qu'il professait pour l'anglais avait rendu populaire dans tous les ports de la Manche. On connaissait un peu partout le timonier Mathieu, surnommé Vent Debout. Le timonier professait un véritable culte pour le capitaine Virlay. Quand à Cherbourg, où l'on armait le foudroyant, le commandant du Lougre était allé l'embaucher dans le cabaret qui lui servait pour ainsi dire de domicile, « Je vous attendais, » dit Vent Debout, en faisant par un mouvement rapide passer son béret sous son bras. Du moment que je savais mon capitaine dans le port, j'avais confiance qu'il n'oublierait pas Vent Debout. Or, M. de Virlay se tenait bien souvent le soir à côté du maître de timonerie et causait à voix basse avec lui. « Coquin de beau temps !» mâchonnait Vent Debout. « Comme s'il ne vaudrait pas mieux une bonne tempête qui nous ferait danser et sauter comme le diable, mais aussi qui nous ferait filer des nœuds, en veux-tu en v'là. Tout plutôt que ce gredin de calme plat qui nous retient ici comme à l'ancre. Mille caronades !» Le commandant, d'ordinaire, riait des boutades de ce grognon de marin qui n'était jamais content de rien. Mais dans la circonstance présente, il n'avait certes pas envie de plaisanter ni de rire. « Tu verras, Vent Debout, disait-il en rageant, que cette fois encore nous allons en être pour notre voyage, et que nous devrons retourner en France sans avoir pu dire deux mots à ces messieurs du drap rouge. » C'est ainsi que nos matelots appelaient les officiers de la marine anglaise. « Si je le croyais, capitaine !»« Eh bien quoi, Mathieu ? Tu ne ferais pas vanter pour cela ?» Puis chef et subalterne gardaient pendant quelque temps le silence en sifflotant. « Baf !» disait tout à coup M. de Virlay. « Nous aurons beau siffler pour appeler le vent. C'est comme si nous voulions harponner des sauterelles, mon pauvre Mathieu. Ce qu'il y aurait de mieux à faire, dit celui-ci, ce serait peut-être de bien nous adresser à la Vierge de Bon Secours. C'est vrai qu'elle doit être diablement fatiguée des prières qu'on ne cesse pas de lui adresser. Mais on peut toujours essayer. » Et le timonier Vent Debout improvisait une prière à sa façon, par laquelle il suppliait la très sainte Vierge de Bon Secours d'intervenir auprès du Très-Haut pour que des vents favorables soufflassent exclusivement pour les Français, afin de leur permettre d'atteindre leurs ennemis, pendant que ceux-ci demeureraient en panne sans pouvoir s'échapper. Ce fut pendant cette période de calme absolu que le chevalier de Vaudrey eut l'occasion de se lier plus étroitement avec Lafayette. La patience qui tourmentait le marquis n'était un secret pour personne à bord. Chacun essayait de distraire le général. On amenait naturellement la conversation sur les batailles auxquelles l'officier français avait pris part pendant ses deux premiers séjours en Amérique. Je veux vous raconter, dit-il un jour, mon apprentissage dans une guerre qui était tout à fait nouvelle pour moi. Les officiers faisaient cercle autour de leur chef, celui-ci commença. En 1777, quand je débarquais à Boston, une lettre du général Washington m'y attendait. Celui qui, depuis, est devenu mon illustre ami, me donnait avis qu'il m'attendrait dans l'État de New Jersey, où il se proposait, m'annonçait-il, de livrer bataille à l'armée anglaise, bien supérieure en nombre à la sienne. « Venez, m'écrivait-il, ce sera pour vous, à qui je destine un commandement, l'occasion de voir comment se comportent nos milices devant des soldats aguerris. » Il me donnait en outre les indications les plus précises pour que je pusse le rejoindre plus tôt. Je me mis immédiatement en route, ne voulant pour rien au monde manquer l'occasion alléchante pour un militaire d'assister à une grande bataille. Bien m'en prit d'avoir fait diligence. Comme j'arrivais en vue de la ville de Princeton, l'armée anglaise était déjà en ligne, prête à entrer en contact avec les troupes du général Washington. Les avant-postes échangeaient des coups de fusil comme prologue du grand drame militaire qui allait se jouer moins d'une heure plus tard. Je m'étais présenté pour être admis auprès de Washington. « Le général, me dit l'officier de grand garde auquel je m'adressais, il a bien autre chose à faire qu'à vous recevoir dans ce moment-ci. Il donnera, je suppose, la préférence aux Anglais, et il les recevra d'une bonne façon, vous pouvez m'en croire. » Je crus devoir insister pour qu'on me conduisît auprès du général, et naturellement j'exhibai la lettre que Washington m'avait adressée à Boston. « Ah, vous êtes l'officier français. Bien, 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 en ce cas, je vais vous confier à deux cavaliers qui vous conduiront auprès du général. Seulement, je ne vous promets pas que vous ne vous trouviez pas dans l'obligation d'aller le rejoindre sur le champ de bataille, peut-être même au beau milieu de la mêlée. » Et l'officier ajouta. « C'est qu'il va vite en besogne, le général. Tenez, voici la canonnade qui commence. Vous n'avez que le temps de partir. » Je mis mon cheval au galop à côté des deux cavaliers chargés de m'accompagner et je tombai en pleine bataille. Washington, en effet, allait vite en besogne, tandis que l'armée anglaise déployait ses ailes pour envelopper le corps d'armée qui lui était opposé, Washington avait commandé une charge à la baïonnette sur le centre de l'ennemi. Je vis alors un véritable bloc humain d'environ 4 000 hommes sur 8 rangs s'élancer au pas de course, tête baissée, baïonnette en avant, saluant les décharges qui leur arrivaient. Washington leur avait donné l'ordre de ne pas tirer afin de n'avoir pas besoin de recharger les armes. Ces hommes allaient à l'ennemi sans brûler une cartouche. C'était un spectacle étrange pour moi qui ignorais les ordres donnés. Ah, si j'eusse été au courant, combien j'aurais admiré ces soldats qui savaient obéir aussi héroïquement. C'est le seul mot que je trouve pour peindre ce courage surhumain, ce mépris de la mort, cette abnégation sublime de soi-même, dont j'avais l'exemple saisissant sous les yeux. Tout à coup, lorsque ces soldats, lancés au pas de course, furent arrivés à 30 mètres de la ligne ennemie qui les avait jusque-là fusillés sans riposte, les armes de la colonne s'abattirent et un feu roulant commença, renversant des files entières d'Anglais. Au bout de quelques minutes, il y avait une brèche pratiquée dans cette muraille humaine et la masse américaine s'y engouffra. Mon cœur battait à rompre ma poitrine. Pour moi, les deux ailes de l'armée anglaise allaient inévitablement se refermer derrière les assaillants du centre et les enfermer dans un immense cercle de fer et de feu. Le mouvement commandé par Washington me parut d'une imprudence si grande que je ne pouvais comprendre que cet homme de guerre, auquel on reconnaissait l'étoffe d'un grand capitaine, eût pu le concevoir d'abord et en ordonner ensuite l'exécution. C'était fou. À mon avis, un pareil mouvement ne devait utilement s'accomplir qu'à la fin d'une bataille, quand l'ennemi, pour masquer sa retraite, dispose une ligne de troupes déterminées qui ne broncheront pas. Mais ce qui me stupéfiait par-dessus tout, c'est que je ne voyais pas de réserves qui eussent pu et dû soutenir le mouvement si audacieux qui s'exécutait. Eh bien, messieurs, je l'avoue, j'avais mal jugé le général américain. Et je ne pus retenir un cri d'admiration au spectacle étrange, inouï qui frappa mes regards. Ce que je vis ce jour-là, je ne l'oublierai de ma vie. Les officiers, vivement intéressés, étaient suspendus aux lèvres du narrateur. Celui-ci continua. Comme les deux ailes de l'armée anglaise s'ébranlaient, ainsi que je l'avais prévu, pour marcher au secours du centre aux 3/4 défoncés, soudain, sur leur derrière, et de chaque côté en même temps, s'abattirent des nuées d'Indiens que je n'avais pas aperçus et que le général anglais n'avait pu même reconnaître, embusqués qu'ils étaient dans les bois voisins, couchés sur le sol, dans les herbes, à l'abri des plis de terrain. Un signal convenu d'avance, toutes ces hordes s'étaient élancées, chaque tribu poussant son cri de guerre. Quelle lutte inénarrable, inoubliable aussi! Les peaux-rouges m'apparurent ce jour-là comme une multitude de démons. Et par la pensée, je me reportai vers ces époques mystérieuses de la fable, alors que les combattants surnaturels se laissaient conduire à de fantastiques batailles par les dieux. Ce fut bientôt une mêlée inextricable, autant de combats singuliers et de corps à corps. Puis l'entrechoquement de petites masses faisant leur trouée dans le gros des ennemis. Cette partie de la bataille eut pour résultat, après une lutte féroce, impitoyable, l'émiettement de cette masse anglaise, comme si des nuées de sauterelles se fussent abattues sur elle, voraces, irrésistibles, acharnées à creuser la place pour se frayer un passage. C'était horrible et superbe à la fois. Et dans mon admiration, ma surprise, mon émotion, je cherchais le général Washington, le grand capitaine qui avait conçu ce plan merveilleux. Mais alors tout mon sang afflua vers mon cœur. J'eus comme un vertige, et le tableau que j'avais sous les yeux se mit à danser comme lorsque l'on se trouve pris tout à coup d'étourdissement. En effet, Washington, au moment où mes yeux le découvrirent, était à cheval, cherchant à maintenir en rang des hommes qui, déjà, commençaient à vouloir lâcher pied. C'était un corps de réserve, habilement dissimulé dans un pli de terrain pendant toute la partie de la bataille. Le général anglais, se voyant sur le point d'être écrasé, si cette réserve pouvait donner à temps, avait fait établir une batterie sur un monticule, et cela à l'abri d'un rideau d'arbres qui masquait l'opération. Tout d'un coup, cette batterie avait ouvert un feu roulant de boulets et de mitrailles sur le corps que Washington avait précieusement conservé, comme la réserve qui devait frapper le dernier coup. C'était une diversion habile de la part de l'ennemi, une de ces inspirations qui décident du sort de l'action et changent quelquefois la défaite en victoire. Washington a vu le danger. Il a compris que c'est la déroute pour ses troupes bien inférieures en nombre. À tout prix, il doit empêcher la débandade des rangs décimés par cette mitraille contre laquelle les soldats affolés ne pourront bientôt plus tenir. Oh, je le vois encore, allant et venant sur le front de ses troupes entamées, haranguant les uns, arrêtant les autres par des gestes impérieux. Puis comme sa parole est couverte par les clameurs de ceux qui déjà poussent le terrible « sauf qui peut », le général saisit le drapeau qui se trouve à portée de sa main et le brandissant. « Quels sont les lâches » s'écrie-t-il d'une voix tonnante, « qui ne se rallieront pas au moment du danger autour de ce drapeau de l'indépendance ?» Et les plus épouvantés s'arrêtent, indécis. D'autres poussent de véritables acclamations. Alors le chef prend une décision audacieuse. Cette batterie qui tonne et foudroie, il faut la faire taire. Il faut l'enlever à tout prix. « Qui veut me suivre ?» s'exclama Washington en se mettant à la tête d'une cinquantaine de cavaliers qui lui servait d'escorte. « Il faut aller là-bas, sabrer ses habits rouges !» Et de la pointe de son épée, il indique le bouquet de bois dont les arbres se couronnent de fumée blanche après chaque détonation. « Quoi ?» interrompit le chevalier de Vaudrey. « Le général en chef allait-il s'exposer de la sorte ? Aucun officier ne s'offrit-il pour le remplacer ?» Il s'en présenta un, et déterminé à mourir pour sauver l'armée compromise. Il prit le commandement de cette cavalerie, qui devait faire des prodiges de valeur avant d'atteindre et de démonter la batterie. « Cet homme, c'était vous, général ?» s'exclama Roger dans un cri d'enthousiasme et d'admiration. « C'était moi !» répondit simplement Lafayette. Et c'est au milieu de l'émotion qui s'était emparée de tous les assistants que le jeune marquis continua. « Laissez-moi passer sous silence tout ce que nous coûta d'efforts cette attaque audacieuse. Hélas, quand j'arrivai à la batterie, 20 hommes seulement avaient pu me suivre. Les autres marquaient de leur corps sanglant, hachés par la mitraille, chaque pas de la redoutable étape. Alors commença un combat homérique entre ces hommes également courageux, également animés du sentiment du devoir, également décidés à mourir, plutôt que de lâcher pied. Les artilleurs se laissaient sabrer sur leurs pièces. Les cavaliers démontés continuaient le combat à l'arme blanche, corps à corps. J'en ai vu qui, laissant de côté les armes, s'attaquaient comme des lutteurs et roulaient en poussant des cris de rage. C'était bien là une lutte désespérée, un combat qui ne pouvait finir que lorsqu'il n'y aurait plus d'adversaire. Le bonheur voulut que je demeurasse vainqueur. La batterie prise, les pièces enclouées, renversées, les chevaux capturés, je retournai rendre compte au général de l'issue de l'opération. Nous étions partis 50, nous revenions 12. Lafayette s'interrompit. Sa poitrine haletait. Ce récit, commencé avec des éclats de voix sonores, s'achevait d'un ton attristé, ému. Et de tous ceux qui avaient écouté la narration de ce magnifique fait d'armes, il n'en était pas un seul qui ne sentît vibrer en soi le sentiment de l'orgueil national à la vue de ce Français qui s'était ainsi illustré. Lafayette n'ajouta plus que quelques mots. « Messieurs, dit-il, cette bataille de Princeton, gagnée dans les conditions que je viens de vous indiquer sommairement, donnait à l'armée américaine la possession de cette province de New Jersey, dont les plaines avaient été depuis plus d'un an fouillées par les armées belligérantes. » Le chevalier de Vaudreuil s'était levé et, s'inclinant devant Lafayette, prononça ces mots d'une voix pleine d'émotion. « Général, le fait d'armes que vous avez accompli et dont le récit nous a tous enthousiasmés suffirait à illustrer la carrière d'un officier. Puisse le ciel me réserver une pareille chance. « Patience, chevalier, dit M. de Virlay. Vous savez ce que je vous ai annoncé? Eh bien, je maintiens ma prédiction d'il y a quelques jours. « Quoi ? Interrompit Lafayette. Vous persistez à croire que M. de Vaudreuil débutera bientôt, et ce ne sera pas ma faute, je vous l'affirme, s'il ne trouve pas l'occasion de se signaler. Et plus tôt que l'on ne pourrait le croire. » À ce moment, chacun put entendre, arrivant de l'arrière, une petite mélodie sifflée avec art. « Tenez !» fit en riant M. de Virlay. « Voilà le père vent debout, qui fait des agaceries à la brise. Et ma foi, je crois bien que la brise s'y laisse prendre. La voici qui nous arrive fraîche comme une coquette qu'elle est. » Et le commandant se mit également à siffloter à la façon des marins qui ont la prétention d'appeler ainsi le vent. Au bout de quelques instants, les voiles s'agitèrent, frappant contre les mâts avec force. Puis les cordages crièrent sous la tension des toiles qui commençaient à prendre le vent. « Hardi, mon foudroyant !» cria M. de Virlay avec une explosion de joie qui se communiqua à tout l'équipage, assemblé à bâbord et à tribord, et regardait la mer qui, d'unie qu'elle était comme un immense miroir, commençait à se moutonner de petites vagues se frangeant d'écume. « Hardi, mon lougre !» répéta le capitaine en faisant un signe au timonier pour lui indiquer une direction nouvelle à donner au gouvernail. Et comme s'il eût obéi au commandant, le gracieux navire se pencha sur le côté et sa proue fendit l'eau comme un diamant qui eût tracé son sillon sur le verre à entamer.